Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Vivante Église, une semaine avant le premier match de l'Euro de football, 3 semaines avant le début du Tour de France cycliste et 7 semaines avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. Vous l'avez compris, il va être question de sport dans ce numéro, mais plus précisément des rapports qu'entretiennent le sport, le corps et l'âme. Et je salue l'invité de cette émission, le philosophe Robert Redeker. Bienvenue Robert dans ces studios que vous connaissez bien pour y être déjà venu à plusieurs reprises.
Bonjour cher Éric, bonjour à tous les auditeurs de Radio Présence.
Pour ceux qui ne le sauraient pas, je rappelle que vous êtes l'auteur de, aujourd'hui, à peu près 25 essais, il y en a d'autres à venir, dont plusieurs ont été consacrés au sport. Les 2 derniers ouvrages que vous avez publiés ont pour titre « L'abolition de l'âme », paru aux éditions du Cerf en 2023, et « Sport, je t'aime, moi non plus », paru chez Robert Laffont en 2022. Tout récemment, vous avez prononcé une conférence au Vatican sur le thème « Le sport, le corps, l'âme », au Centre Saint-Louis, à Rome, lors d'un colloque où vous étiez invité par le Dicaster pour la culture et l'éducation, conférence qu'on peut trouver en intégralité sur votre chaîne YouTube. Vous qui menez depuis longtemps maintenant une réflexion sur les questions que pose la pratique sportive à notre époque, et en particulier la pratique du sport de haut niveau, quel est pour vous le rapport qu'entretient un sportif avec son corps aujourd'hui ?
C'est quelque chose de très complexe. Difficile d'y répondre parce que cela échappe à l'intuition. Ce n'est pas du tout ce que le grand public penserait plus ou moins intuitivement. C'est-à-dire, l'on va croire que le rapport du sportif à son corps, c'est l'enthousiasme, c'est la santé, c'est l'épanouissement du corps. Un peu comme lorsque nous faisons du sport justement pour conserver notre bonne santé. Lorsque nous faisons du sport pour prendre l'air, nous qui ne sommes pas des professionnels ni même des champions de très grand niveau amateurs. Et dans toute la société se développent des activités sportives liées au bien-être. Mais non, ce n'est pas du tout ce rapport de bien-être que le sportif de haut niveau ou le sportif professionnel entretient avec son corps. D'abord, son corps, c'est pour lui, non pas ce dans quoi il habite, mais c'est d'abord un outil. C'est l'outil de la performance, et c'est un outil qui, contrairement à la fourchette, la pelle ou la fourche, c'est un outil rebelle. C'est un outil qui, finalement, ne veut pas faire ce que l'on va lui forcer à faire. C'est-à-dire, il y a 2 volontés qui entrent en jeu. À ce moment-là, il y a la volonté qui est une volonté sans parole. Alors il faudrait développer là des choses qui ont rapport avec les théories de l'inconscient. La volonté du corps, qui est une volonté sans parole, une volonté qui ne se dit pas, ou alors qui va se dire à travers des blessures, à travers des refus, des fatigues soudaines. Et la volonté du sportif, mais est-ce une volonté autonome ? Je ne le crois pas du tout. Derrière la volonté du sportif, il y a la volonté que tout un système lui dicte. Alors ce système, c'est bien sûr tout l'entourage qui fabrique le sportif, mais je crois qu'au-delà, ce système, c'est ce qui apparaît dans la modernité avec Galilée puis Descartes. Vous savez, le règne de la quantité, comme disait René Guénon, c'est-à-dire ce système, c'est le système mathématique, c'est le système du chiffre, de la performance chiffrée. Donc voilà, qu'est-ce que le corps pour un sportif ? Je crois qu'il y a au moins 2 corps. Il y a le corps vrai qu'il essaie de mettre de côté et le corps que l'on veut, c'est-à-dire c'est un ensemble de données chiffrées. C'est un corps fabriqué aussi, corps machine. La machine, c'est encore quelque chose de palpable. Nous sommes entourés de machines là ou d'appareils, encore quelque chose de palpable. Le corps du sportif frise l'impalpable. C'est un ensemble de données. À l'hôpital, vous avez parfois ça aussi. Et vous avez parfois l'impression, lorsque toutes les analyses vous sont présentées, vous avez parfois l'impression que vous n'êtes plus que ça, que vous n'êtes plus que
des données chiffrées.
Des données chiffrées, des équations, des algorithmes au sens mathématique de ce mot.
Pour prolonger ce que vous venez de dire, à un moment donné, dans votre conférence, vous dites que dans le sport, le corps est ce qui dérange, l'obstacle qu'il faut écarter de sa route, et que le rêve de tout sportif, finalement, est l'absence de corps pour qu'il ne reste que le chiffre brut. Le corps nous pose en effet des limites, et le but du sport de haut niveau serait de ne plus avoir de limites. Avant que l'on parle de l'abolition de l'âme, parce qu'on va y venir, est-ce que le sport, ce ne serait pas avant tout l'abolition du corps ?
Si. Alors, on peut comparer le sport au dualisme platonicien dans son côté vraiment extrémiste. Alors, je ne vais pas faire le professeur de philosophie, je vais essayer de schématiser très rapidement. Il y a un dialogue de Platon qui s'appelle le Phédon, et dans ce dialogue, comme dans tous, Platon ventriloque son maître Socrate, qui parle à sa place, à la place de Platon. Et alors Socrate explique que le corps est quand même une chose très très mauvaise, dont le philosophe doit se débarrasser absolument, parce que le corps est un obstacle à la connaissance des idées, un obstacle au fond à l'envolée de l'âme vers le monde des idées. Voilà. J'ai essayé d'être schématique. Donc le corps obstacle est presque mal absolu, c'est-à-dire obstacle absolu dans ce cas-là. Eh bien, je crois que dans le sport de haut niveau, ce schéma platonicien se présente chez chaque sportif de très haut niveau. Alors vous savez, je fais une parenthèse. Pour Platon, cette séparation de l'âme et du corps, c'est la mort. Mais cette mort ouvre complètement la vie à l'âme, puisque le corps empêche l'âme de vivre. Alors, je referme cette parenthèse et je retiens cette idée de mort. Le sportif, au fond, ne rêve-t-il pas de la mort de son corps, qui ne serait plus alors que quelque chose d'idéal, c'est-à-dire que des performances chiffrées, qui ne viendraient plus l'embêter? Et l'on trouve, par ce détour que je viens de faire, l'on peut se demander si l'on ne découvre pas là la morbidité de la préparation sportive de très haut niveau. La grande idée chrétienne, c'est le corps, hein, finalement, c'est l'incarnation. Lorsque Nietzsche vous explique que le christianisme est l'ennemi du corps et que c'est un dualisme, finalement, Nietzsche confond platonisme et christianisme et montre qu'il n'a rien compris du tout au christianisme. Donc la grande, j'allais dire révélation, mais ce n'est pas le vrai mot. On va dire la grande manière chrétienne d'envisager la vie, c'est que tout se passe justement dans le corps. Et au contraire, dans une lignée parfaitement platonicienne, dans le sport de haut niveau, nous avons une haine du corps, une somaphobie. On ne peut pas dire soma-misi ou miso-somati ou quelque chose comme ça. On a une haine du corps qui est très éloignée du christianisme. Donc la question de l'articulation entre le christianisme et le sport, c'est une question avec laquelle il faudrait être subtil. Je ne sais pas si nous aurons le temps.
Probablement, en tout cas, je pense qu'on y reviendra vers la fin de cette émission. Je vais vous soumettre une phrase qui m'avait frappé lors de la Coupe du Monde de rugby qui a eu lieu il y a quelques mois en France. Fabien Galthié, l'entraîneur de l'équipe de France de rugby, tout le monde connaît, avait annoncé lors d'une conférence de presse la titularisation du jeune ailier Louis Bialbiaré, qui était connu pour ne pas être très à l'aise sous les ballons hauts. Pourquoi on a peur, évidemment, sous les ballons hauts? Parce qu'on a peur de se blesser, de prendre des joueurs qui font 120 kilos, qui arrivent à lancer à fond sur vous. Et il lui avait dit cette phrase, qui rejoint totalement ce que nous venons d'évoquer, « Sur les ballons hauts, j'oublie que j'ai un corps ». C'est extraordinaire.
Voilà, c'est une phrase magnifique. Alors Galthié me surprend toujours, puisqu'au lieu de regarder le match, il regarde son ordinateur portable.
Et ses data.
Avec toute une série de data, ce qui n'est pas du tout l'esprit rugby, je trouve, un esprit rugby que j'admire. Voilà. Alors ça, c'est le conseil, c'est-à-dire ce que l'entraîneur, je crois qu'il faut dire le coach maintenant.
Oui, le coach.
Mais je n'aime pas trop dire ça.
Le manager, oui.
Ce que l'entraîneur et le sélectionneur met dans, je ne dis pas l'esprit, mais dans le cerveau du joueur. Oubliez que j'ai un corps. Et cela illustre notre propos. Mais l'oubli, qu'est-ce que c'est que l'oubli? L'oubli, c'est le refoulement. Donc c'est le corps refoulé. qui est conseillé là par l'entraîneur. J'oublie que j'ai un corps. Le paradoxe, c'est tout à fait paradoxal, le joueur joue au rugby avec son corps. Un match de rugby, c'est le spectacle de un spectacle qui est parfois chorégraphique, mais qui parfois aussi, comme dans certains moments de la finale Stade Toulousain-Leinster, c'est le choc, l'affrontement, et nous avons plus qu'une mêlée, nous avons pas une chorégraphie, mais un magma qui pour le spectateur va paraître difforme et informe, mais c'est le corps qui est mis en spectacle. Mais pour qu'il y ait cette mise en spectacle, le sportif doit oublier cela. Donc il y a une sorte de négation du corps. Alors cela veut dire que nous, c'est intéressant de comparer le point de vue du spectateur et le point de vue de l'acteur dans ce cas-là. Le spectateur croit qu'il a affaire à des corps, donc il va regarder cela comme un spectacle chorégraphique, tandis que l'acteur, alors je vous dis donc du coup que le sportif est un acteur, tandis que pour l'acteur, le corps aura disparu, parce qu'au fond, il est ce qui ne devrait pas être là. Donc vous avez une drôle de pièce. Quelque part, je me souviens de Lacan disant que le rapport entre les sexes dans une histoire d'amour, c'est que chacun attend de l'autre ce que l'autre n'a pas et donne à l'autre ce
qu'il ne veut pas.
Ce qu'il ne veut pas. Voilà. Je crois qu'on retrouve cela si l'on fait la stratification entre le spectateur
et le
sportif. Si vous voulez. Nous, spectateurs, nous attendons des corps et le sportif, plutôt, aimerait que le corps, cet obstacle, cesse de le gêner. Le sportif, lui, veut la performance.
Si l'on en vient à la relation entre le corps et l'âme de l'athlète, vous évoquez dans votre conférence ce qu'on pourrait appeler une sorte d'abolition de l'âme au profit de ce qui ne serait plus que le mental, un terme que l'on entend souvent dans la bouche des coachs, justement, et des commentateurs sportifs aussi. Est-ce que vous pouvez développer et préciser cette idée ?
Alors, il y a une longue histoire, grosso modo depuis Descartes, depuis le XVIIe siècle. Je rappelle, Descartes meurt dans le froid de Stockholm en janvier 1650. Il y a une longue histoire du déclin de la notion d'âme en Occident, en Europe. Et on va parler de refoulement progressif de l'âme, comme il y a un refoulement progressif de Dieu dans la culture européenne. Alors cette idée de refoulement de Dieu ne m'appartient pas exclusivement. Je crois que je l'ai trouvée chez Maurice Clavel, chez l'excellent Maurice Clavel. Donc nous avons un déclin progressif de la notion d'âme qui passe par ces substituts, mais qui sont toujours un peu moins spirituels. L'ego, le moi, l'esprit, le sujet. Et le dernier substitut apparu est quelque chose qui ne possède plus du tout la liberté de l'âme. Liberté qui fait partie de l'essence de l'âme, c'est le mental. Alors, mental, c'est un mot qui est devenu très très courant, pas seulement dans le sport, dans l'entreprise également. Alors, qu'est-ce qu'on appelle mental ? Alors, dans un autre contexte, c'est un mot aussi des religions orientales. On laisse cela de côté. Alors, qu'est-ce qu'on appelle mental ? C'est la volonté de la performance et la volonté de la réussite, c'est-à-dire toutes les forces psychiques de la personne doivent être exploitées et tendues vers un seul but qui est la réussite numérique, qui est la réussite quantitative, pouvant se mesurer. C'est cela le mental. La fin du mental, c'est la mesure. On est encore entièrement, comme nous l'avons dit au début de l'émission, dans la tyrannie du chiffre, dans la tyrannie mathématique. Alors, par ailleurs, le mental, c'est une telle réduction psychique qu'au fond, il transforme la vie psychique en un muscle. Le psychisme, c'est alors un muscle comme les autres qu'il faut conditionner, préparer, afin qu'il aide à la performance. Et il n'y a pas de séparation. Cela en dit long sur le côté idéologique du sport dans notre société. Il n'y a plus de séparation dans la théorie du mental entre le sport et l'entreprise, qui poursuivent les mêmes buts.
La culture de la performance, du rendement,
de
l'efficacité.
Et l'une des grandes inventions des modernes, c'est la réhabilitation de l'infini, du mauvais infini. Dire, il faut toujours que du capital s'ajoute à du capital. et ainsi à l'infini. Il faut toujours que du chiffre s'ajoute à du chiffre. Il faut toujours que...
De la croissance s'ajoute à la croissance, la croissance est infinie.
Et que les performances soient toujours meilleures, que les records soient battus. Un grec de l'Antiquité grecque se serait arraché les cheveux si on avait proposé une chose pareille et aurait trouvé cela barbare et monstrueux, incivilisé ou décivilisé. Mais enfin, c'est quand même le fond idéologique de notre vie moderne que le sport et l'entreprise reproduisent à travers cette, c'est pas une religion le mental, cette religion du mental, j'aurais dit une bêtise, non, à travers cette pratique déspiritualisante qu'on appelle la préparation mentale.
Oui, alors à propos de la préparation mentale, qu'est-ce qu'il s'agit d'abolir ? Je reprends ce terme dans la préparation mentale, ce sont les faiblesses, la faiblesse de manière générale, mais aussi l'indécision, le doute. Or, le doute, il me semble que c'est la matière même, en tout cas la matière première de la réflexion et de la pensée.
Alors, ce qui est très important chez les sportifs, mais aussi je crois dans les entreprises, c'est la résolution. C'est d'être un bloc, lisse, inentamable, c'est la résolution de la volonté. Enfin, c'est une idée très étrange de la volonté, puisqu'elle exclut de la volonté la faculté d'élire, c'est-à-dire la faculté de comparer et de choisir, elle exclut de la volonté la liberté. Donc la grande affaire dans cette préparation mentale, c'est de faire en sorte que les gens aient une volonté sans liberté. Alors, le sportif va estimer que son ennemi principal, nous avons dit que c'est le corps, son rapport avec le corps, son rapport avec les faiblesses du corps, que son ennemi principal, c'est le doute. C'est très intéressant, quand on lit ou que l'on écoute les interviews des sportifs, cela revient de manière très récurrente. Je ne veux pas douter. Oh là, j'ai perdu parce que je me suis mis à douter. Donc, il y a une calomnie sur le doute, la faculté de doute, mais c'est une peur. Or, le doute, qu'est-ce que le doute ? Que serions-nous sans le doute ? Bon, d'abord, je crois que sans le doute, nous n'aurions pas la foi. Je parle ici en chrétien à des chrétiens. Un chrétien qui ne doute pas n'est pas un chrétien, à mes yeux. Le doute fait partie de la foi. Sans le doute, d'abord, il n'y aurait pas de science. Il n'y aurait pas de progrès scientifique. Si un scientifique ne doute pas des résultats et des méthodes de ses devanciers, eh bien, il n'y aura rien. Mais sans le doute, il n'y a pas non plus de philosophie. On sait l'importance du doute dans la philosophie, mais depuis les débuts, c'est pas seulement Descartes qui est en jeu. Mais sans le doute, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie humaine, parce que sans le doute, nous ne sommes que des machines.
Et il n'y a pas de vie spirituelle non plus.
Et bien sûr, pas de vie spirituelle. C'est un peu ce qui était en coulisses lorsque nous disions, il y a 5 minutes, qu'il n'y a pas de foi non plus, sans le doute. Donc, je crois que le doute, c'est dans la vie, au centre de la roue, il y a le vide. Donc, c'est dans la vie, le vide qui fait tourner la vie, hein, qui fait tourner la pensée. D'où il y a quelque chose d'assez anti-vital lorsque les sportifs vous disent « je crains le doute », lorsqu'il faut conjurer le doute. Non, le doute, il ne faut pas le craindre. Le doute permet à la vie de battre.
Nous allons faire une pause musicale dans cette émission avant de reprendre notre conversation. Le cinéma a souvent rendu hommage à des personnalités du monde sportif. Et l'un des plus beaux films est certainement Raging Bull, celui que Martin Scorsese a consacré au boxeur Jack LaMotta. Voici un extrait de sa bande originale.
présence. Vivante Église, Éric Dupri.
Retour à l'antenne pour la seconde partie de ce numéro de Vivante Église. Je suis toujours en compagnie du philosophe Robert Redeker pour revenir avec lui sur la conférence qu'il a prononcée récemment au Vatican lors d'un colloque au Centre Saint-Louis à Rome sur le thème « Le sport, le corps, l'âme ». Dans votre intervention, vous citez aussi Simone Veil, la philosophe, l'auteur de « La pesanteur et la grâce » qui écrivait « Il est cependant une source de mystère que nous ne pouvons éliminer et qui n'est autre que notre propre corps ». Il me semble, et vous en avez déjà parlé, un des grands mystères de l'évangile, outre la résurrection bien sûr, il me semble que c'est l'incarnation. Est-ce que le corps du sportif aujourd'hui, de manière paradoxale, serait un corps désincarné, non seulement vidé de sa psyché et de son âme, mais même conditionné pour l'être ?
Alors d'abord, pour pouvoir être un sportif, il faut considérer que le corps n'a rien de mystérieux au sens fort du mot mystère. C'est-à-dire, il faut considérer que tout dans le corps est réductible à du physique, chimique, mécanique, avec quoi l'on peut jouer dans des paramètres. Et c'est d'ailleurs cette considération-là du corps qui fait que l'on peut dire que c'est une décorporéification. C'est pas un très joli mot, mais quand on le prononce lentement, ça passe, on peut le comprendre. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par le mystère ? D'abord, ce qui dit mystère dit inépuisable. Il y a dans le corps une dimension de façon inépuisable qui est irréductible à cette quantification-là. Alors je me référerai, j'espère qu'on ne m'en voudra pas, bon mais je suis un vieil heideggerien, donc je vais me référer à Heidegger, à quelque chose qui m'a marqué il y a très longtemps et qui me poursuit toujours. Que l'on trouve dans la très belle lettre sur l'humanisme de Martin Heidegger, une lettre qui a été écrite à Sartre en réponse à l'existentialisme est un humanisme. Alors dans cette lettre, Heidegger dit « Le corps humain est quelque chose d'essentiellement autre qu'un simple organisme animal ». Je répète, le corps humain est quelque chose d'essentiellement autre qu'un simple organisme animal. Par essence, le corps humain est autre chose qu'un seul corps biologique. C'est autre chose que le corps de mon chien ou du porc dont je vais manger une côtelette ce soir. On est dans l'antispécisme. Donc vous avez bien sûr une coupure radicale, comme ça, entre les êtres humains et les autres espèces vivantes. Mais essentiellement, cela signifie que lorsque je parle de mon corps, on est dans une débiologisation. C'est-à-dire, ça ne relève pas essentiellement de la biologie, le corps humain. Contrairement à ce que l'on pourrait croire quand on va chez son médecin ou quand on va à l'hôpital. Alors c'est cette différence essentielle, alors je dis donc débiologisation, qui ouvre la porte à la notion de mystère inépuisable.
Dans votre conférence, vous faites aussi référence à Maître Eckhart, dominicain rénan du XIIIe, XIVe siècle, et vous évoquez à sa suite une forme de capillarité du spirituel dans le corporel, l'âme se répandant dans tout le corps sous la forme de la joie. Le corps du sportif est souvent un corps souffrant, un corps martyrisé, on peut le voir comme ça. Est-ce que ce serait aussi un corps qui aurait perdu cette joie de l'âme se répandant dans toute sa chair ?
Alors ce qu'il y a de très fort chez Maître Eckhart, qui nous permet de lutter contre le dualisme platonicien, la joie de l'âme, c'est pour lui la joie que l'âme ressent quand elle obtient des fruits spirituels, éventuellement quand elle contemple un aspect de la face de Dieu ou qu'elle recueille quelque chose de la communion des saints. Et c'est cela, la joie de l'âme. Il faut bien voir chez Eckhart, joie au sens spirituel très très fort. Un dualiste va vous dire que cette joie-là reste dans l'âme et qu'elle n'a rien de corporel, un Platon peut-être. Vous direz ça. Non, elle descend dans le corps. Le corps participe à cette joie. On la sent, dit Eckhart, dans les membres. Alors ce n'est pas la joie d'un bon repas, la joie d'une bonne bouteille ou la joie d'un plaisir. Non, non, c'est la joie la plus haute, la joie spirituelle qui descend dans les membres. Alors descendre est une métaphore, c'est un mot que l'on pourrait contester, qui descend dans les membres et qui se mêle finalement à notre chair. Nous avons là avec Eckhart, nous avons là une vision très très forte de ce qu'est véritablement l'incarnation et de ce qu'est, au fond, le corps humain. D'où je rejoins ce que nous disions tout à l'heure, que le corps humain est essentiellement autre chose qu'un simple corps biologique. Parce que ça veut dire que le corps humain, c'est un corps qui est capable de recevoir en lui, dans sa chair, une joie qui est une joie d'un type particulier, une joie spirituelle. Donc, le corps humain est un corps qui, de part en part, jusque dans chacune de ses pores, qui, de part en part, est habité par le spirituel, ce qu'on appelle l'âme, qui n'est pas séparée, bien sûr, du corps. Lorsque l'on en vient, dans le sport de haut niveau, à traiter le corps comme un ensemble de données quantitatives et avoir en lui un ennemi, eh bien, on s'éloigne de la révélation chrétienne sur le corps, hein, d'une conception chrétienne. Alors, je voudrais ici, au fond, qu'est-ce que c'est que le corps parfait tel que le sport de haut niveau nous le présente? C'est Apollon. C'est le paganisme. Évidemment, ce corps-là ne peut pas être, puisqu'il n'est que données statistiques formant un corps parfait, un corps qui ne connaît pas, qui ne peut pas connaître la faiblesse, ce corps-là ne peut pas non plus être le corps de la résurrection. Or, on sait bien que le vrai corps du sportif, comme le vrai corps de chacun d'entre nous, est promis à la résurrection. Oui, d'évoquer cet aspect-là des choses me fait revenir sur un aspect dont je vais oublier de vous parler, futur Alzheimer que je suis. C'est la notion de vrai corps que l'on rencontre chez Husserl, par exemple, c'est-à-dire de corps vécu. Le vrai corps, c'est à la fois celui qui nous est donné à la naissance, le corps naturel qui évolue et qui est vécu. Et évidemment, qui est vécu dans ses faiblesses. Et le corps fabriqué pour le sportif, si bien ce qui se passe, c'est alors que finalement, le sportif est expulsé de son vrai corps. Non, 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 c'est pas ça. Le corps sportif ou le corps du sportif, c'est un corps dont le vrai corps a été expulsé. Donc voilà, imaginez, je vais gagner la poursuite olympique sur la piste, et bien le corps qui gagne ça, c'est pas le mien, c'est pas le vrai corps, c'est quelque chose qui a été fabriqué. Dans le vrai corps entre, on va retrouver notre incarnation, c'est-à-dire Maître Eckhart, dans le vrai corps entre par la faiblesse quelque chose qui ne peut y entrer autrement.
C'est la faiblesse qui fait entrer la lumière dans l'âme, dans quelque sorte.
Oui, oui, c'est l'idée vers laquelle je voulais aller à l'instant même. La faiblesse, ce sont ces blessures par lesquelles entre en nous ce qui vient du ciel.
Alors vous faites un parallèle dans votre conférence entre le sport et les utopies transhumanistes. Est-ce que ce n'est pas aller un peu loin?
Non.
Parce que j'ai l'impression que vous présentez ça, l'un et l'autre, ce qui est devenu le sport aujourd'hui, le sport de haut niveau, et les utopies transhumanistes, comme quelque chose qui finalement remet en cause ce qui fonde notre humanité.
Oui, les deux, c'est très, très proche, les deux. Et ça repose sur le même désir d'en finir avec l'homme tel que nous le connaissons.
L'homme et ses limites.
Et ses limites. Alors, Nietzsche vous a dit que l'humain est un pont vers le surhumain. Il y a chez Nietzsche cette volonté de se débarrasser de ce que nous sommes, de l'humain. Voilà. C'est très intéressant, mais le transhumain, ça n'a rien à voir avec ça. Ce vers quoi Nietzsche veut aller a quelque chose à voir avec la liberté. C'est aussi quelque chose de tout à fait admirable. Et le surhomme nietzschéen est très proche de François d'Assise. C'est lui, Nietzsche, sur la Côte d'Azur, ou bien en Italie, au milieu des pauvres. C'est ça le surhomme. C'est pas le... Tandis que le transhumain, c'est Iron Man. C'est-à-dire, c'est l'homme sans faiblesse.
C'est l'homme sans limite, et notamment sans limite voilà. Pour la durée de sa vie.
Oui, j'allais y venir. Alors tout ça, ça remonte à Descartes. Descartes était obsédé, il était persuadé de trouver le système qui permettrait de vivre 200, 250 ans, même de façon immortelle, c'était la grande affaire de sa vie. Et c'est très lié à la conception que Descartes a de la science et de la technique, comme ce qui doit nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Nous avons là l'embryon du transhumain. Et là, nous sommes dans le sport aussi. Nous sommes également dans le sportif qui est toujours... C'est-à-dire, le sportif veut aussi tout le temps reculer l'âge de la baisse des performances. Hein, c'est-à-dire, l'âge devient pour lui aussi un adversaire, un ennemi, alors que ce devrait être, avec un peu de sagesse, ce devrait être le contraire. La performance sportive, c'est aussi donc une guerre contre l'âge. Et pourquoi ? Parce que l'âge, c'est l'âge du corps, de notre corps naturel.
On arrive vers la fin de cette émission, mais je voulais citer Hildegard von Bingen pour finir, cette abbesse bénédictine allemande du XIIe siècle, Renan, elle aussi, comme maître Eckhart, qui a été faite docteur de l'Église par Benoît XVI en 2012. Elle disait que le corps est l'atelier, le chantier de l'âme où l'esprit vient faire ses gammes. On est loin de ce genre de considération dans le monde du sport aujourd'hui.
Je crois que le dominicain Eckhart ne renierait pas cette belle phrase. Oui, on est très loin de ce qui se passe. Alors d'abord, ce qui s'est passé entre Hildegard, Eckhart et nous, c'est le déclin de l'âme. C'est le fait que plus personne ne prend au sérieux cette notion d'âme, ou tout au plus qu'elle passe pour une métaphore, alors que je suis persuadé qu'elle est une réalité. L'idée, c'est donc le corps comme atelier pour l'âme. On est très loin, en effet, du sport, mais on peut aussi, lorsque l'on s'intéresse à la philosophie ou à la poésie, penser cela, penser le corps comme atelier pour l'âme. Vous voyez, la philosophie et la poésie peuvent vous ramener à des visions, à des pratiques que le monde moderne vous a fait oublier. Je suis en train de relire la poésie de Philippe Jacotet. Alors, est-ce qu'on peut parler d'extase entre le poète et la nature chez Jacotet lorsqu'il parle de certaines fleurs ? Comme par exemple lorsqu'il parle, c'est pas très poétique semble-t-il, les fleurs de carottes sauvages, hein, comme l'unique, c'est quand même le corps qui va vers la nature, qui est alors aussi autre chose que la nature des biologistes. Je signale que lorsque Jacotet parle des fleurs de carottes sauvages, il en parle en mettant tout à côté désincarcéré de la science.
Eh bien, on va terminer là-dessus. Je pense que c'est une jolie chute à notre conversation. Il me reste à vous remercier, Robert Redeker, d'avoir partagé cet échange avec moi. Je signale à nos auditeurs que l'intégralité de votre conférence « Le sport, le corps, l'âme » est disponible gratuitement sur votre chaîne YouTube. Elle est passionnante et je conseille à tous nos auditeurs de l'écouter avec attention. Je signale également que vous avez participé à un livre collectif récemment paru aux éditions du Cerf, livre dirigé par votre ami Daniel Salvatore Schiffer, qui a pour titre « L'humain au centre du monde, contre les nouveaux obscurantismes ». Cette émission était animée par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Merci à tous de votre écoute fidèle. À la semaine prochaine.